j'aimerais parler sur la prière de Jonas, dans Jonas chapitre 2. Il est dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont recouvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Nous connaissons bien l'histoire de ce prophète Jonas particulier, puisque c'est le seul prophète de l'Ancien Testament qui a eu la mission d'aller annoncer la repentance à un peuple païen, à l'extérieur d'Israël. Et déjà, entre parenthèses, ça préfigure le ministère de Jésus qui est allé annoncer l'Évangile à toutes les nations et qui a ouvert l'Évangile avec la grâce à tous les peuples. Donc déjà, on peut dire que Jonas, il a une mission prophétique, c'est que Dieu ne veut pas se contenter du salut du peuple juif, mais il va offrir la grâce à toutes les nations. Mais ayant entendu clairement la volonté de Dieu pour sa vie, et c'est déjà une bonne chose parce que quelquefois on tâtonne, on n'est pas sûr, mais en tout cas là il savait qu'il devait aller à Ninive, et il va à l'opposé, à Tarsis, à plus de 4000 kilomètres à l'opposé. Même si il était croyant, même si il dit qu'il aimait Dieu, ben en tout cas il ne voulait pas obéir parce que pour lui, Dieu réservait le salut uniquement pour les Juifs, et les païens ne devaient pas y avoir accès. Donc il avait limité la grâce de Dieu, il avait limité l'amour de Dieu, mais en tout cas, lui, même s'il était croyant, il ne voulait pas obéir à Dieu, et je pense qu'on peut dire qu'on aime Dieu, mais si on n'obéit pas à Dieu, c'est qu'on n'aime pas vraiment Dieu comme il faut. Et là, Jonas fait un péché en désobéissant à Dieu. Alors, il y a toujours un prix à payer pour obéir à Dieu. Ce n'est pas facile d'obéir à Dieu, parce que si c'était toujours facile, voilà, on n'aurait pas besoin d'en parler. Mais l'obéissance a un prix, il faut demander pardon, il faut réparer nos torts, il faut faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Et tout cela, ça a un coût. Mais voilà pourquoi il y a toujours plus de monde pour recevoir les bénédictions que pour faire la volonté de Dieu. Pour recevoir les bénédictions, il y aura toujours plein de gens qui voudront être bénis, qui voudront être guéris, qui voudront avoir le succès, prospérité, tout ça. Et là, il y a toujours du monde. Mais quand il s'agit d'obéir et de sacrifier sa vie pour le Seigneur, ça, c'est plus difficile. Et là, il y a moins de candidats. Au début, d'ailleurs, Jonas, en désobéissant à Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent. Et c'est là où il nous faut être attentifs. Parce que rapidement, il trouve un bateau. Il a l'argent pour le voyage. Il pourrait dire c'est Dieu qui ouvre les portes. Mais pas du tout. Même si le voyage se passe favorablement au début, il pourrait dire, ben voilà, finalement, je désobéis, mais les choses se passent bien. Mais un jour ou l'autre, il y aura la sanction. Et là, il nous faut du discernement. Ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre que c'est vraiment la porte que Dieu veut. En tout cas, pour Jonas, ce n'est pas parce qu'il a trouvé le bateau, le voyage, il a le billet, tout s'est ouvert, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi il nous faut du discernement. Et rapidement, les ennuis sont arrivés avec la tempête. Et vous savez que Jonas s'est dévoilé. Il a dit, c'est à cause de moi que l'Éternel est en fureur. Jetez-moi par-dessus bord. Et finalement, l'équipage a jeté Jonas par-dessus bord. Mais Dieu n'a pas laissé mourir Jonas dans l'eau. Il a envoyé le grand poisson. Il envoie un grand poisson qui l'avale, l'arrache à la mort. Certes, l'endroit est compressé, inconfortable, mais là, il va composer une belle prière. C'est la prière que nous avons lue au chapitre 2. Dans cette prière, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est Jonas évoque le temps de l'épreuve, le temps de l'épreuve par laquelle il passe. Les épreuves sont permises par Dieu, on le sait. Dans Genèse 22, je vois ce verset qui dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui a décidé un jour de mettre Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham, il répondit, me voici. » Alors on ne décide jamais des épreuves, mais un jour ou l'autre, Dieu peut très bien décider de nous mettre à l'épreuve. On ne connaît pas la nature, on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas la durée. Comme pour Abraham, comme pour Jonas, il y a un temps de l'épreuve. L'épreuve ici de Jonas, elle est consécutive à sa désobéissance. Elle est consécutive à son manque de conformité à la volonté de Dieu. Il ne veut pas se soumettre. Il passe par une épreuve pour le faire réfléchir, pour le ramener à de meilleurs sentiments, à changer d'avis, changer de route. Il va passer près de la mort. Il dit que le séjour des morts, il était même dans le sein du séjour des morts. « J'ai crié ». Et tu as entendu ma voix. Le séjour des morts, ça veut dire qu'il est passé à un cheveu de la mort. Il était presque à la mort. Il a connu une profonde détresse. Il a connu l'abîme. Il a connu les vagues et les flots qui l'ont submergé. Alors rappelons-nous, en tout cas, nous qui sommes croyants, que toute épreuve qui vient de Dieu a un but. Le passage dans le ventre du grand poisson, ici, pour Jonas, il y avait un but. C'était d'amener ce prophète à réfléchir sur le sens de son ministère, afin qu'il ne s'égare pas, qu'il ne s'entête pas dans des voies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc cette épreuve a un sens. Et effectivement, nous devons bien accueillir l'épreuve, parce que si nous ne l'accueillons pas bien, nous passons à côté. Et c'est en accueillant bien l'épreuve que Jonas va rentrer en lui-même, il va réfléchir sur son comportement, il va réfléchir sur ses attitudes, et il va exprimer une prière, qui est une prière de repentance, qui est une prière aussi où il exprime que Dieu lui fait grâce, que Dieu l'aime et qu'il y a un avenir pour lui. Donc dans l'épreuve, en fait, l'épreuve va être comme un catalyseur qui va lui permettre de faire monter vers Dieu une prière inspirée. Et l'épreuve a souvent pour conséquence de faire jaillir de nous de bonnes choses. Des choses que nous ne pratiquons pas naturellement. Et dans ces choses, eh bien, il y aura du bénéfice. Regardez par exemple Jacques chapitre 1 verset 3 qui dit que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quelque chose de bon. Pierre nous dit, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, aura pour résultat la louange, la gloire, et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. C'est encore quelque chose de bon. Donc l'épreuve de notre foi produit la patience, la louange, la gloire, l'honneur. Et tout cela va se passer dans l'épreuve qui va être pour nous révélateur. On le voit dans la nature, par exemple, si vous prenez un grain de blé. Un grain de blé, tant que vous ne le mettez pas dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire sous la terre, un grain de blé ne vient pas, ne va pas pousser, il ne va pas se développer, il va rester toujours pareil. Mais dès que vous le mettez sous la terre, il y a comme un travail qui s'opère, et puis il va germer, il va produire du fruit. Donc c'est donc dans un contexte éprouvant, dans un contexte difficile, que le grain de blé va donner tout son potentiel, tout son fruit. Et Jean 12, 24 nous en parle. Lorsque Jésus dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ah, il va tomber en terre et là, bien sûr, on peut penser à Jésus lui-même qui, par sa mort, a porté beaucoup de fruits, mais ça parle aussi de notre vie si nous laissons mourir cette vieille nature, cette ancienne nature, cette nature attachée au péché et à la mort. Eh bien, si elle meurt, elle pourra porter beaucoup de fruits, mais c'est dans la terre. Quand elle est tombée en terre, c'est là que va s'opérer à la fois la mort, mais qui va produire la vie et la bénédiction. On peut dire que Jonas est un petit peu comme s'il était tombé dans la terre. Il est dans le ventre du poisson, mais il est dans l'obscurité. Il est comme ce grain de blé qui va pouvoir maintenant porter du bon fruit. Le poisson est à la fois un instrument de mort, parce qu'il fallait que la vieille nature de Jonas meure, et puis c'est un instrument de vie, parce que de cette mort va jaillir quelque chose de bon, quelque chose de puissant. Cette prière inspirée et cette obéissance, il va obéir à Dieu. Instrument de mort parce que Dieu va faire mourir en nous tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est vanité, tout ce qui est attachement aux yeux de ce monde. C'est un petit peu comme la carabasse qui doit être brisée. Regardez par exemple Actes 7, 51. Quand Étienne parle aux Juifs, ils avaient encore un cou raide. C'est-à-dire, ils étaient rebelles, ils étaient durs avec les choses de Dieu. Et tant qu'il y a cette dureté dans nos cœurs, ce cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, ça veut dire qu'on n'est pas mort à nous-mêmes, qu'on est encore bien vivant à notre ancienne vie, à notre vie de péché. Et ensuite, il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et cette vieille nature-là, elle est réfractaire aux choses de l'Esprit. Elle ne veut pas de l'Esprit. Et forcément, ça va faire que notre vie spirituelle va stagner, va s'enfoncer. Mais si nous faisons mourir cette vieille nature, cet homme au cou raide, celui qui est incirconcis de cœur et d'oreille, qui est fermé aux choses de Dieu, à ce moment-là, va se développer une vie spirituelle, et c'est la vie de l'Esprit, finalement, qui va nous permettre de servir Dieu. Et c'est l'expérience de Jonas. Il était cet homme au cou raide, il était réfractaire au commandement de Dieu, il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu, homme au cou raide, incirconcis d'oreille et de cœur. Il était opposé au Saint-Esprit, mais c'est dans le ventre du poisson qu'il y a eu ce travail en profondeur, que ce vieux Jonas est mort et qu'il en est ressorti un autre Jonas, un Jonas homme de l'Esprit, un Jonas obéissant, un Jonas soumis à Dieu, qui va maintenant faire la volonté de Dieu. Il y a un travail qui doit être opéré dans nos cœurs, et pour opérer ce travail, eh bien, il faut passer par... Jonas, c'était le ventre du poisson, nous, ça va être l'épreuve, ça va être... Pour le grain de blé, c'est la terre, il va tomber en terre, il va mourir, et pour nous, ça va être une épreuve qui va permettre que la vie spirituelle jaillisse de notre cœur. Le deuxième point, c'est la perte de tout espoir. C'est au verset 6 à 7 dans notre texte. Je le lis dans la version Semeur. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête. Les algues s'enlaçaient. Je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait été tirée derrière moi, ses verrous pour toujours. Il y a un autre paramètre qui va augmenter la difficulté pour Jonas et qui souvent est un facteur aussi d'angoisse pour nous, c'est l'obscurité. Dans le ventre du poisson, il n'y a pas de lumière. Il fait sombre, il fait noir. Vous ne voyez absolument rien. C'est assez angoissant quand on ne voit rien, quand on entend peut-être des bruits ou des choses qui nous entourent, mais il n'y a pas de lumière. Et la lumière pour nous, ça nous rassure. La lumière, c'est même vital. Si on enlève la lumière, les plantes ne se développent pas, elles meurent. La lumière va être une source d'encouragement pour nous. Donc l'obscurité par laquelle Jonas passe, c'est parfois l'obscurité, c'est-à-dire quand on n'a plus de vision, quand on ne voit plus devant nous qu'est-ce qui va arriver, et ça inquiète. Ça fait qu'on ne voit pas l'avenir, qu'on se pose des questions, comment on va faire, et puis on interprète toutes les choses d'une mauvaise manière. On ne voit pas d'issue, on ne sait pas comment Dieu va intervenir, on a prié, on n'a pas vu sa main agir. Mais je dirais que même dans l'obscurité, si nous sommes chrétiens, nous avons accès à une lumière spirituelle. C'est dans Jean 8, verset 12. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Il y a une lumière qui existe. Vous êtes peut-être dans l'obscurité, vous ne voyez pas de quoi demain sera fait, mais il y a une lumière qui existe. C'est Jésus. « Je suis la lumière du monde. » Jésus peut nous rassurer dans l'obscurité. Jésus peut consoler notre cœur quand nous sommes abattus. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ou l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Vous voyez que la lumière, elle produit de bonnes choses. Jésus va produire la vie. Avec Jésus, vous avez la lumière. Dans l'obscurité, vous êtes peut-être dans l'obscurité, mais il y a la lumière de la vie qui est là, elle est accessible, c'est Jésus. C'est pourquoi prions le Seigneur Jésus. Dans l'obscurité, prions le Seigneur Jésus, il est la lumière. Voyez, quand on regarde des pièces d'un puzzle, certaines pièces sont très sombres. Si on les isole du reste du tableau que l'on veut faire, on pourrait trouver qu'elles sont très noires, très obscures. Mais finalement, quand on les place et qu'on prend un peu de recul, et qu'on observe de loin le tableau qui est représenté par ce puzzle, eh bien, cette obscurité, elle trouve son harmonie dans l'ensemble. Mais souvent, nos yeux sont rivés sur les pièces obscures, les pièces les plus sombres. Et c'est peut-être les moments les plus difficiles de la vie, mais en réalité, il nous faut voir les choses d'une perspective différente, avec le recul que Dieu nous donne. Et si Dieu l'a permis, c'est parce que ça rentre dans un ensemble qui est finalement son plan et qui est harmonieux. Sauf que nous, on n'a pas le recul, et on focalise sur les difficultés, sur les moments sombres, sur les temps d'obscurité où on ne voit rien. Que Dieu nous aide, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir sa lumière et voir sa présence, même dans l'obscurité, il est notre lumière. Troisième point, c'est au verset 8. C'est maintenant la prière de la foi. Et c'est celle qu'il nous faut faire monter vers Dieu, frères et sœurs. Jonas 8, il dit, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. » C'est important de prier, mais c'est encore plus important que notre prière, elle aille jusqu'au trône de Dieu. Parce que combien de prières nous faisons qui n'aboutissent pas ? Parce que notre cœur est loin de Dieu, parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous prions pour des choses vaines. Mais là, la prière de Jonas est parvenue jusqu'au trône de Dieu. C'est cette prière-là qu'il nous faut, frères et sœurs. Là, au fond du fond, c'est-à-dire dans un moment d'obscurité, dans un moment d'isolement, dans un moment où il n'y a plus personne pour l'aider, il est seul. J'aime bien au verset 5 parce qu'il dit « Je verrai encore ton Saint-Temple ». Il est dans le ventre d'un poisson, au milieu de la mer, il n'y a plus personne pour lui. En fait, quand il prie là, à ce moment-là, il n'y a même pas des frères et sœurs pour l'encourager, il est tout seul avec Dieu. Il n'y a que Dieu qui pourra faire quelque chose. À un moment donné, il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que Dieu parce que les difficultés sont tellement grandes, vous frappez à gauche, vous cherchez à droite, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que Dieu. Et là, dans le ventre du poisson, il dit, et moi pour moi, c'est au verset 5, pour moi, c'est la prière de la foi. Quand il dit « Je verrai encore ton Saint-Temple », c'est-à-dire il croit que Dieu est capable de le sortir de cet endroit fermé pour l'amener dans un endroit meilleur où il reverra la présence de Dieu, il reverra le Saint-Temple. C'est la prière de la foi. Frères et sœurs, faisons monter vers Dieu des prières de foi. On est peut-être dans l'obscurité ou dans le ventre du poisson, mais on peut dire « Nous reverrons ton Saint-Temple, nous reverrons ta présence, nous reverrons, tu nous redonneras des forces ». Alors, c'est facile de le dire quand on n'est pas dans l'épreuve, bien sûr. C'est plus difficile quand on est comme Jonas dans le ventre du poisson. Mais c'est là, finalement, que la prière de la foi va prendre toute sa puissance et tout son effet. Parce que, en fait, cette prière de la foi, elle va venir du plus profond de l'aide de Jonas. C'est pour ça qu'elle est montée jusqu'au trône de Dieu. C'est la vraie prière que Dieu agrée, la prière avec foi. Matthieu 21, 22, Jésus le dit. Il nous dit « Activez votre foi. Quand vous priez, ne priez pas avec votre tête ou avec votre intelligence. » Oui, on peut faire des belles prières avec notre intelligence. Et certains ont une facilité pour s'exprimer. Mais surtout pour Jésus, ce qui compte, c'est la foi. « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Voyez, la première chose que Jésus met en avant, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas nos capacités à parler, à faire de belles phrases, à demander de belles choses, mais il dit, mais demandez-le avec foi. Mettez-y votre cœur, mettez-y votre confiance que Dieu va agir, et puis vous le recevrez. Et ça, c'est la part de Dieu. Alors, le verset ne dit pas quand on va le recevoir, comment Dieu va agir. Ça, maintenant, ça appartient à Dieu. Notre part à nous, c'est demander, mais avec foi. Et la foi, c'est un agent actif. C'est un agent actif qui rend la prière efficace et agissante. Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste, c'est cette prière-là que nous cherchons, la prière agissante. Oui, mais c'est une personne qui est juste, qui plaît à Dieu, qui marche dans les voies de Dieu. Vous voyez, Jonas, à un moment donné, il était désobéissant, il n'était plus intègre, il n'était plus fidèle. Mais maintenant qu'il est revenu vers Dieu, on peut dire qu'il a retrouvé la prière du juste, et cette prière, elle est agissante. C'est pour ça qu'elle est montée vers le trône de Dieu. Elle a une grande efficacité. Jonas donne ici un enseignement très important, parce qu'il dit qu'il ne suffit pas de prier, ou de, même Jésus le dit, de répéter de vaines paroles, de répéter toujours les mêmes discours, et pensant que ça sera réglé. Il insiste d'abord sur le cœur, l'attitude de cœur. Confessez vos péchés. Ne laissons pas de péché devant Dieu. Ces péchés sont des obstacles à l'exaucement. Ainsi, si l'on n'a pas demandé pardon à Dieu, ben on peut prier 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais on n'est pas dans la prière du juste. On n'est pas dans la prière agissante et elle n'a pas d'efficacité parce que nous n'avons pas confessé. Nous n'avons pas demandé pardon. Nous ne sommes pas humiliés devant Dieu. Nous pensons que les choses vont se faire toutes seules, mais il n'y a pas d'exaucement. La prière n'est pas magique. Dieu n'exauce pas toutes les prières, on le sait. Il y a des prières qui sont non exaucées, il y a des prières qui sont charnelles, il y a des prières qui sont terrestres, il y a des prières qui sont humaines. Dieu exauce la prière du juste qui est faite avec foi, elle devient agissante. Donc il y a quand même des conditions. Et regardez par exemple le passage qu'on connaît tous sur la Sainte Cène. Souvent, on ne le lit pas jusqu'au bout d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 11, on parle de ce que Paul recommande par rapport au pain et au vin, mais à la fin est assez dure, quand vous regardez les versets 29 et 30, il dit « Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Et là, il va donner une parole par rapport à l'Église. « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et même un grand nombre sont morts. » Il y a donc là une sanction pour des croyants qui n'ont pas la prière du juste, ils n'ont pas la prière de la foi, ils n'ont pas confessé leurs péchés, ils n'ont pas réalisé finalement ce que Dieu veut pour leur vie, ils n'ont pas réalisé l'importance de ce repas du Seigneur, ils l'ont mangé sans discernement, et du coup il y a eu des conséquences. Et beaucoup de personnes ont été atteintes par divers maux. Il s'agit bien de chrétiens. En fait, ils ont laissé des obstacles. Ils ont peut-être des manques de pardon, des jugements, des critiques. Tout cela a été nocif pour leur âme. Il n'y a que la prière du juste, mais la prière de la foi. La prière du juste associée à la foi, elle devient efficace. Et puis, quatrième élément que je voulais souligner, c'est la louange que fait monter Jonas alors qu'il n'est toujours pas sorti du ventre du poisson. On peut le noter quand même. « Pour moi, verset 10, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » C'est une louange, c'est une reconnaissance. Oui, Dieu, je te rends gloire, je te rends grâce. Et pourtant, il est toujours au sein de son épreuve. Jonas accompagne sa prière d'action de grâce. Et nous devons apprendre à être reconnaissants alors que les choses ne vont pas bien. Il n'attend pas d'être sorti du ventre du poisson pour louer Dieu. Il loue Dieu au sein de son épreuve. Et ça, ça ne plaît pas au diable. Parce que le diable, il aimerait mieux entendre des plaintes, des gémissements, des lamentations, de dire « Dieu m'a abandonné, et tous ces problèmes arrivent. Depuis que je suis, comme quelqu'un disait, depuis que je suis chrétien, j'ai que des problèmes. J'avais moins de problèmes avant. Mais toutes ces paroles-là, ça plaît au diable. Mais quand vous élevez la voix pour glorifier Dieu, alors même que vous êtes dans le ventre du poisson, alors même que vous êtes au sein de l'épreuve, eh bien ça déclenche des bénédictions, ça déclenche des grâces. Souvent, on ne le réalise pas. Mais naturellement, nos propos sont négatifs. L'épreuve va susciter des paroles mauvaises, des plaintes, peut-être des paroles contre Dieu en disant « mais Dieu m'a abandonné, je suis dans l'obscurité ». Alors c'est une décision à prendre, frères et sœurs, et Jonas l'a fait pour sa part. Il a dit « je ne vais pas laisser cette épreuve me détourner encore de Dieu, je vais louer Dieu au sein de mon épreuve ». Il a pris la bonne attitude en fait. Il a décidé de louer Dieu. Et ça, on le trouve dans le Nouveau Testament, avec les premiers chrétiens. Certes, des fois on dit pour nous c'est difficile, on est persécuté, mais quand même, à l'époque, ils risquaient leur vie d'annoncer Jésus. Ils étaient persécutés d'une manière physique. Ils étaient torturés, ils étaient emprisonnés, ils étaient mis à mort à cause du nom de Jésus. Les apôtres sont arrêtés par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil religieux juif. Ils leur disent « nous vous interdisons d'annoncer le nom de Jésus ». Alors ils auraient pu se taire. Ils auraient pu dire à Dieu « on n'y arrivera pas, on va arrêter ». Mais acte 5, 41, « les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus ». C'est la joie du Saint-Esprit. C'est la joie que Dieu donne quand on est confiant dans l'épreuve, quand on s'attend à Dieu. Je dirais que ce n'est pas une joie naturelle, c'est une joie surnaturelle qui vient au-delà de notre nature humaine. C'est la joie même que Dieu nous donne quand nous sommes dans la reconnaissance alors qu'on nous persécute, alors qu'on nous maltraite, alors qu'on nous fait du mal. Je termine avec le verset 11. C'est l'exaucement. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et en conclusion, ce verset, il exprime vraiment la souveraineté de Dieu. Pourquoi ? Parce que tant que Dieu n'avait pas parlé au poisson, Jonas ne pouvait pas sortir sur la terre. Il fallait à un moment donné que Dieu parle. Et Dieu, quand il parle, la chose se fait. Mais plus tôt, ce n'était pas possible. Il y avait un timing. Et même, c'est d'ailleurs dit au verset 1, Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il y a eu une durée, il y a eu un temps déterminé et c'est Dieu qui l'a fixé. Dieu a utilisé ce poisson pour ramener Jonas sur la terre, mais il y avait un temps. Et Jonas, ce n'était pas au bout de 24 heures qu'il allait sortir. Ce n'était pas au bout de 2 jours, il fallait attendre 3 jours. Jonas avait payé le billet pour aller à Tarsis, un billet très cher. Finalement, il n'y est jamais allé. Mais il a eu le billet retour gratuit dans le ventre du poisson, en classe économique. Certains chrétiens ne comprennent pas la souveraineté de Dieu. Le plan de Dieu pour lui, c'était « tu vas à Ninive ». Et au bout de 3 jours et 3 nuits, il a été remis sur les rails. Mais si vous ne comprenez pas la souveraineté de Dieu, vous serez malheureux. Vous serez amer parce que vous ne comprenez pas le timing de Dieu. Il y a un timing. Il y avait 3 jours et 3 nuits. Alors, si Dieu n'a pas encore répondu, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais quand Dieu va parler, regardez le verset 11, « L'Éternel parla au poisson ». Mais tant que Dieu ne va pas parler au poisson, vous ne sortirez pas du poisson. Il faut attendre le timing de Dieu. Et il n'y a personne qui peut imposer Dieu dans son timing. C'est pour ça qu'on a tort de dire que Dieu n'a pas agi ou c'est trop tard. Quand on dit ça, c'est qu'on n'est pas calé sur le temps de Dieu. Parce que pour Jonas, ce n'était pas trop tard, c'était le bon moment. C'était le temps où il fallait qu'il sorte. Il y a un temps. Et nous devons apprendre à attendre dans le calme. Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ah, la plupart des gens n'aiment pas attendre. On aime bien que quand on a prié, la chose arrive. Mais si on n'apprend pas à attendre le temps de Dieu, on sera frustré. Dieu avait déterminé ces 3 jours et 3 nuits. Jonas pouvait peut-être dire « c'est trop long, pourquoi attendre aussi longtemps ?» Mais qui sommes-nous pour contester avec Dieu ? Jonas ne le sait pas, mais en fait, ces 3 jours sont prophétiques. Jésus le reprend dans Matthieu 12, 40. « Car de même que le Fils de l'homme, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et là, il parle de sa mise au tombeau. Et on voit que Jonas, en fait, dans le ventre du poisson, il y a une durée prophétique qui sera, en fait, l'annonce de du passage de Jésus dans le tombeau. Il ne le sait pas, Jonas, bien sûr, tout cela, c'est prophétique. Mais quelquefois, nous vivons des épreuves qui ont un sens. Mais Jonas ne le comprend pas. Et il fallait 3 jours et 3 nuits parce que ça avait un sens. Et en fait, on le comprend avec Jésus-Christ qui en donne le sens prophétique. Le ventre du poisson, c'est-à-dire l'épreuve que nous traversons, c'est vraiment le meilleur endroit pour grandir. C'est là que c'est dur, c'est là qu'il fait sombre, c'est là qu'on est seul. Il n'y a plus personne pour nous. On est abandonné de tous. Mais en tout cas, c'est là que notre prière va monter vers Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur profond, si on saisit l'opportunité de faire monter notre prière vers Dieu. Vous pouvez aussi connaître un nouveau départ, parce que après cette épreuve, on voit que Jonas va rebondir, il va avoir une deuxième chance, sortir du ventre du grand poisson, retourner sur la terre, et je crois que Dieu il tend la main. Vous voyez, Pierre, il a renié 3 fois Jésus, mais après 3 fois, il lui a dit « paie mes agneaux, paie mes brebis ». Il lui a tendu la main. Il y avait comme un nouveau départ pour Pierre. On va prier quelques instants. C'est la prière de Jonas. La prière de Jonas, c'est une prière de foi. C'est une prière dans l'obscurité, mais c'est une prière de confiance. C'est une prière de soumission à la souveraineté de Dieu. C'est une prière aussi audacieuse, parce qu'il dirait « je verrai encore ton Saint-Temple. Je suis dans l'obscurité, je ne vois rien devant moi, mais je sais que tu vas agir ». Merci encore pour Jonas, qui dans son épreuve nous montre le chemin de la persévérance, de la prière de la foi, de la prière du juste, de la prière de celui qui s'est repenti, de la prière de celui qui a renoncé à sa voie de perdition et qui est revenu dans le chemin que tu veux pour lui. Merci aussi parce que tu as fixé un terme à l'épreuve, parce qu'il y a des durées que tu as toi-même déterminées et nous voulons rester dans le calme et la confiance jusqu'à ce que tu parles toi-même pour faire jaillir, pour nous faire sortir de cette difficulté, pour nous permettre de triompher, Seigneur, comme tu l'as fait pour Jonas. Lorsque tu as parlé au poisson, Jonas est sorti sur la terre. Et nous croyons qu'il y a un temps qui est déterminé où tu vas toi-même prendre les choses en main et agir selon ta grâce, ta puissance, ta souveraineté, ton autorité, parce que nos vies sont en toi. Dans le nom de Jésus, Amen.